Rennerie est un quartier populaire du sud de Toulouse. Jean-Marc est salarié depuis 17 ans dans ce quartier et constitue donc l'une des mémoires vivantes de l'histoire de la Rennerie. Il nous raconte comment ce quartier, qui à la fin des années 70 paraissait comme un projet urbanistique novateur, s'est peu à peu délité dû à la ghettoisation et à l'absence de mixité sociale. Il nous raconte aussi l'absence totale d'organisation et de gestion dans l'accompagnement des personnes qui devaient se faire reloger suite aux destructions des immeubles.
Dans quelques années, quand vous traverserez la banlieue parisienne, c'est en hélicoptère sans doute que vous irez, et partout vous survolerez des villes dans le genre de celle-ci. On les appelle les grands ensembles, on les appelle aussi les villes dortoirs.
Mon prénom c'est Jean-Marc et je travaille sur le quartier de la Rennerie. Le quartier de la Rennerie, en fait, on peut le concevoir comme une sorte de cercle avec au milieu le lac de Rennerie où il y a une rue qui s'appelle la rue Winston-Churchill qui coupe en deux ce cercle où d'un côté on a tout l'habitat social et de l'autre côté plus de mixité sociale, disons, des petites copropriétés qui se trouvent tout autour du lac et qui remontent jusqu'au géant casino. Donc il y a quand même une grande différence socialement entre ce qui existe côté habitat social et ce qui existe de l'autre côté autour du lac.
Bidonville, taudis, chambres dortoirs. Des immigrés pourtant connaissent un meilleur sort. Les foyers financés par le gouvernement abritaient fin 72 126 000 célibataires. L'État avait dépensé en 1968 240 millions de francs lourds s'entend, pour offrir des logements aux travailleurs venus en France avec leurs femmes et leurs enfants. Quatre ans plus tard, ils dépensaient quatre fois plus. Les familles d'immigrés ont jusqu'à un certain point accès au HLM, les familles françaises, comme il se doit, passant d'abord.
Là où il y a une vraie fracture, c'est que côté habitat social, c'est vraiment ce qu'on appelle aujourd'hui la ghettoisation. C'est-à-dire que il y a quasiment que des. C'est un quartier populaire où majoritairement aujourd'hui les couches sociales qui y sont issues de l'immigration. Il y a 40% de chômeurs. C'est un quartier donc qui vit avec des codes très certainement qui existent, mais qui sont complètement différents a priori de ce qu'est, disons, le quotidien moyen de la ville de Toulouse. Il y a beaucoup de misère sociale, c'est une concentration même de misère sociale. La question de l'argent n'est pas la seule. Il y a d'autres questions qui tournent autour de d'abord l'immigration, donc les difficultés à se retrouver dans un pays nouveau. Il y a les problèmes de jeunesse où il y a énormément de jeunesse en grande difficulté. Il y a des problèmes qui sont accrus. Je dirais même que c'est peut-être l'excès en même temps de notre société ambiante, dans le sens que il y a une intégration totale au regard que peuvent avoir à travers la télévision et d'autres modes de fonctionnement, disons, normatifs. Il y a un regard qui est totalement une intégration à notre société, sauf avec tous les excès de la difficulté sociale qu'il peut y avoir sur le quartier. C'est-à-dire que, d'une part, des gens accèdent quelque part socialement ce qu'on appelle l'ascenseur social. Il ne faut pas croire qu'il n'est pas au sein même de quartier côté social. Il y a des gens qui arrivent quand ils ont du boulot, quand ils ont une formation, hein, parce qu'il y a des gens aussi qui vont, y compris à la fac du Mirail ou de Rangueil, hein, qui sont issus de ce quartier. Ils sortent du quartier, tout simplement, comme n'importe quel fonctionnement de quartier où il y a eu des quartiers populaires et où à un moment, pour un certain nombre de raisons de statut social, on change de convention et on passe de l'autre côté de ce quartier. Il y avait aussi, à l'époque, quand ça a été construit, un certain nombre de copropriétaires, de petites copropriétés, où c'était des gens qui étaient des gens de souche européenne, si je peux m'exprimer ainsi, qui ont accédé à la propriété là, qui ont acheté autour du lac, c'était joli, etc. Et ils sont encore là, pour un grand nombre. Donc c'est cet endroit qui est véritablement la mixité sociale du quartier de la Rainerie.
En 1981, rodéo et voitures brûlées, c'est l'été chaud de la cité des Minguettes. La banlieue s'impose brutalement comme un problème de société. Dans la foulée, quelques pionniers sont invités à se pencher au chevet de ces quartiers en difficulté. À Hubert Dubedoux, maire de Grenoble, le développement social des quartiers. À Gilbert Bonnemaison, maire d'Épinay, les comités de prévention de la délinquance. Et à Roland Castro, la réflexion sur l'urbanisme avec banlieue 89.
Au départ, ce quartier qui était un projet très innovant hein, au départ, qui est un projet d'un architecte qui s'appelle Candilis, qui était assez en avance quelque part sur un certain nombre de questions, notamment les questions d'environnement, puisqu'il avait décidé, il y a énormément d'espaces verts dans ce quartier, et il avait décidé de mettre la voiture en bas, et il y avait des coursives à tous les endroits, y compris, on pouvait aller depuis la fac du Mirail jusqu'à le bout de Bellefontaine, sans foutre les pieds sur le goudron par terre. C'est-à-dire qu'il y avait une succession de dalles qui faisait que les gens pouvait avoir un réseau piétonnier séparé des voitures. Ça a été un exemple social. En gros, la construction commence dans les années 60. On peut même dire que Deng Xiaoping, le chinois, et Kosygin, le russe, sont même venus visiter le Mirail, qui était exemplaire à l'époque. Et c'était vraiment un habitat social, mais qui était destiné à des couches sociales un peu, entre guillemets, moyennes. C'est-à-dire des gens qui travaillaient sur le Grand Toulouse autour de ce qu'on appelle aujourd'hui Airbus, enfin des plateformes de l'aviation. Il y avait déjà, hein, il y avait le Concorde, tout ça. Il y avait aussi les gens qui travaillaient à la fac du Mirail. Hein. Il y a eu énormément d'enseignants qui ont habité, d'enseignants profs de la fac du Mirail qui ont habité ce quartier. Et puis petit à petit, les changements sociaux, les comportements sociaux ont changé. Et ces gens-là sont partis parce qu'ils préféraient des maisons individuelles, ils préféraient le centre-ville, enfin peu importe. Mais en tout cas, ce qu'on appelle l'ascenseur social a joué pleinement sa place dans les années 75-85. C'est quasiment que de l'habitat social sur ce côté-là, où il y a trois organismes HLM, Langue de Sienne, OPAC et les chalets, qui se partagent les immeubles, sauf un. Celui qui est au fond de la rue de Kiev, qui appartient au chalet, était déjà une copropriété, mais c'est le seul, c'est vraiment très à part. Donc c'était vraiment un habitat social qui devait être progressiste et qui, à un moment, n'a plus correspondu au comportement des gens et de notre société individualiste, et les gens en sont partis. Ils ont été remplacés essentiellement par les couches de l'immigration qui habitaient déjà en France et qui étaient dans les bidonvilles, ce qu'on appelle la briqueterie.
Être libre, c'est pas être dehors, c'est à l'intérieur. La liberté vous amènera partout et encore. Il n'y a personne qui détienne le pouvoir d'aliéner votre envie d'être libre. Non, elle n'appartient à personne, mais elle est là. Rappelez-vous de ça.
Et l'élimination des vieux immeubles ne va pas très loin.
J'entends dire aujourd'hui que c'est grave, que ça va péter, que si, que ça. En 95, j'entendais, c'est grave, ça va péter, on en a ras-le-bol. Hein, il faut. Le problème, c'est qu'on a cantonné une ghettoïsation dans ce quartier, qu'effectivement, les populations qui étaient en mesure de sortir de ce quartier en sont sorties, y compris des couches issues de l'immigration, qu'aujourd'hui, on est en grande difficulté parce que ceux qui n'ont pas pu en sortir, ils sont restés, et que d'autres couches de population en grande difficulté arrivent. Et que voilà, c'est ça la ghettoisation du ghetto, entre guillemets. Alors sur les politiques de la ville, moi je dirais une chose, c'est que pour avoir vécu historiquement en 98 les révoltes urbaines qu'il y a pu y avoir au moment de la mort d'un jeune qu'on appelait Pipo, qui a été tué par un policier, il y a eu quand même des choses qui se sont mises en place, et notamment une manifestation 3 mois après qui a rassemblé quand même 1500 personnes, dont la plupart des gens étaient issus du quartier, même si le Grand Toulouse, disons, s'est joint à cette manifestation, qui est partie de la Rainerie et qui est arrivée au Capitole. Et la banderole de tête était « Justice, emploi, éducation ». 5 ans après, en 2000-2001, on se retrouve, c'est même pas 7 ans après, le traumatisme est tellement fort, y compris au niveau des institutions, par rapport à cette révolte urbaine qui a duré quand même 10 jours, où on a envoyé 10% de la population en policiers. C'est-à-dire qu'on a envoyé 1 millier de flics pour 11 000 habitants pour calmer le jeu, parce que pendant une semaine, il y a eu des révoltes de jeunes. Et là, contrairement à 2005, c'était vraiment la jeunesse dans sa totalité qui était dans la rue et qui lançait des cailloux. Moi, j'ai mes propres collègues de travail, y compris des filles, qui pouvaient être en train de lancer des cailloux la nuit et qui, le matin, nettoyaient avec moi les coursives des immeubles, etc. Donc, il y avait vraiment une révolte importante de toute la jeunesse du quartier et une solidarité de la plupart des habitants. Et donc, on arrive à construire quelque chose qui passe par une assemblée générale d'habitants où il y a 300 ou 400 habitants qui se réunissent dans le gymnase du quartier un soir en février. Et qui explique qu'il va falloir faire quelque chose, des choses très très fortes de démocratie directe, où les gens s'interpellent, parlent, mais sans animosité, posent les problèmes de la violence et de la police sans qu'il y ait de dérapage. C'était un vrai débat démocratique ce soir-là. Donc il y a 300 ou 400 habitants qui discutent autour de ces questions-là, et il est décidé de faire une manifestation donc, qui partira de la Rainerie, un mois et demi plus tard, et qui arrivera au Capitole pour demander de l'emploi, de la justice et de l'éducation. La réponse de la mairie de cette époque a été donc le grand projet de ville. C'est-à-dire, en gros, on détruit un certain nombre d'immeubles, et puis comme ça, on éradique quelque part. D'abord, c'était au moment de 2001, juste avant les élections municipales, et où le message dans la dépêche, parce que tout le monde l'apprend dans la dépêche, en gros, si vous décodez le message qui est écrit dans la dépêche de la part de la mairie de Toulouse, c'est « Vous inquiétez pas, habitants de Toulouse, on s'occupe de cette rue plantaire qui est le quartier de la Rainerie. »
Appelle aussi les villes dortoirs. Elles doivent permettre aux familles de vivre loin de l'agitation et de l'air malsain des grandes cités. Elles existent dans le monde entier. Les urbanistes et les sociologues leur consacrent des volumes et des congrès.
Détruit un certain nombre d'immeubles qui sont des immeubles qui ont été repérés. Nous, on s'en est aperçu, tout simplement parce qu'il n'y a pas eu de consultation démocratique. que contrairement à ce que les gens attendaient, ce que les institutions attendaient, il y a énormément de gens qui ne voulaient pas quitter le quartier. Et donc, de ce fait-là, ça a traîné jusqu'à aujourd'hui, hein, alors que ça devrait être réglé selon les institutions depuis des mois, voire des années. En tout cas, il y a encore des habitants qui résistent et qui ne veulent pas quitter le quartier, et ils ne savent pas où les mettre, hein, dans le quartier en tout cas. Et donc, ils n'ont pas consulté les habitants. La seule consultation qui a été faite, et c'est là où il y a manipulation aussi médiatique, c'est autour de du développement social urbain, c'est-à-dire qu'il y avait une sorte de petit magasin, hein, on peut le traduire comme ça, où il y avait des représentants de la mairie et qui expliquaient le projet. C'est-à-dire qu'en gros, les gens venaient, et c'est vrai qu'il y a eu plusieurs centaines de gens qui sont passés par là, mais qui sont venus juste voir si leur immeuble allait sauter ou pas. Mmh. Hein, mais c'était pas du tout des projets qui étaient consultatifs, tels qu'on pourrait l'expliquer, hein, le poser en tout cas. Donc, ces questions-là, on s'est retrouvés à s'apercevoir que ce projet-là, il y avait une incohérence urbanistique dans le premier projet. Notamment parce qu'on cassait des immeubles qui étaient au centre du quartier et qui, a priori, ne laissaient pas la possibilité de reconstruction, parce que vous ne mettez pas des immeubles ou des pavillons de 3-4 étages au milieu des immeubles de 13, hein, de 13 vraiment trop mitoyens, quoi. Et donc, on s'est aperçu qu'en fait, ils avaient été chercher leur renseignement simplement chez les plaintes au commissariat de police. Et donc, on s'est aperçu, y compris, qu'ils n'avaient pas étudié la nature des plaintes dans le commissariat de police. Ils avaient simplement comptabilisé que cet immeuble, il y en avait tant, cet immeuble, il y en avait tant, cet immeuble, il y en avait tant, il faut le détruire, parce qu'il est criminogène. En fait, on s'en est aperçu parce que, tout simplement, la nature des plaintes, s'ils les avaient regardées, par exemple, le Petit Saty, ce qu'on appelle l'immeuble Petit Saty, est à côté du collège de Rennerie. Les jeunes, pour y être confrontés nous-mêmes dans le nettoyage, nous nous sommes aperçus que les jeunes qui veulent décompresser, comme il n'y a rien autour, eh ben, ils vont dans les coursives. Alors dans les coursives, ils font les couillons, ils ont 14-15 ans, ils te mettent autant des tags qu'on est obligé de relever nous-mêmes, qui disent « Fatima, je t'aime » ou « Pierrot, je t'adore », aussi bien que « Nique la police hein. ». Donc il y avait un peu de tout, il y avait du bruit, il y avait un peu de dégradation. Et à cette époque-là, il y avait encore un certain nombre de personnes âgées qui habitaient cet immeuble. Il y avait aussi des parents avec des enfants en bas âge. Et donc ces gens-là, un peu excédés par cette situation, allaient en permanence déposer des plaintes au commissariat de police. En fait, c'était un conflit de génération qu'il y avait à gérer. Et ce qu'il fallait mettre, c'est à la sortie du collège, un lieu d'accueil pour ces jeunes, pour qu'ils évitent d'aller faire les cons dans les coursives. C'était pas difficile à faire, on l'a proposé, on nous a dit oui, et puis c'est toujours resté lettre morte. Le premier immeuble qu'on casse, comme par hasard, c'est l'immeuble dit du 9 bis. Le 9 bis, c'était l'association de jeunes qui s'était construit après la mort du jeune Pipo, de Habib, et qui était une association complètement de jeunes, qui avait monté la marche avec nous. Et c'était le lieu de rassemblement de cette jeunesse du quartier. Et là, eh bien, on se retrouve avec, comme par hasard, cet immeuble, le premier qui pète, soi-disant à cause de l'explosion AZF. Et là, bon, ça passe pas. Ça passe pas tout simplement parce que c'est un immeuble qui est plus bas que les autres et que le premier immeuble qui est beaucoup plus haut et qui a été dévasté se trouve juste devant. Donc si on casse celui derrière qui a été protégé et on casse pas celui de devant, c'était complètement scandaleux. Ça a été dans une réunion avec les habitants, les institutions ont expliqué ça. C'était vraiment un scandale. C'était vraiment un scandale. Ce qu'on voulait, c'était éradiquer le 9 bis de là, de supprimer la contestation, la révolte des jeunes. Donc, la réponse, elle est sécuritaire. Elle est sécuritaire. Aujourd'hui, à la place du 9 bis, on a foutu une rue. Ça vaut le coup d'aller la voir. On a foutu un boulevard, quasiment là. Pourquoi ? Simplement, psychologiquement, de mon point de vue, pour isoler le petit dindi du grand dindi. Un mur psychologique qu'ils ont foutu, une barrière psychologique qu'ils ont foutu entre les deux. Cette rue ne mène à rien. Elle passe devant une école, alors que partout on se bat pour que des rues importantes ne passent pas dans les écoles. Sauf que cette rue-là, personne ne va y passer à part des rodéos peut-être, tout simplement parce que c'est une rue qui mène nulle part. Elle part de la rue de Kiev et elle arrive de l'autre côté, on se demande pourquoi. Hein? Donc, ou ils ont l'idée, plus tard, de continuer à casser ces immeubles, ou c'est simplement du sécuritaire, c'est-à-dire qu'on a étudié l'urbain de façon à ce qu'il soit sécuritaire.
Bidonville, taudis, chambre dortoir.
À Gilbert Bonnemaison, maire d'Épinay, les comités de prévention de la délinquance, et à Roland Castro, la réflexion sur l'urbanisme avec Banlieue 89.
Il n'y avait eu aucune gestion, entre guillemets, excusez-moi de parler un peu technocratique, mais de gestion. Alors, contrairement à ce qu'on pense, et je dirais que c'est bien pire, le résultat est dramatique, aurait été dramatique des deux côtés, mais c'est bien pire qu'on peut l'imaginer, dans le sens qu'il y a une désorganisation, il n'y a pas d'organisation plutôt, de la gestion de population, de ce qu'on appelle la gestion de la population. C'est-à-dire qu'on décide de détruire des immeubles, mais sans reconstruire précédemment. Et donc, on se retrouve avec des populations qu'il faut sortir, des habitants qu'il faut sortir des immeubles, sauf qu'il n'y a pas d'endroit où leur proposer quelque chose d'autre. Or, il courait autour de la gauche cette histoire qu'on allait repousser les gens de la Rennerie à 50 km de Toulouse. Et bien, c'est même pas ça. C'est-à-dire qu'en fait, on se retrouve avec une demande de la mairie auprès des directions des offices HLM, en leur disant, écoutez, débrouillez-vous, mettez-les où vous pouvez sur la ville de Toulouse. Et donc, les effets pervers de ça, c'est que, premièrement, on demande suivant quelqu'un qui quitte son logement social, il y a priorité pour quelqu'un de la Rennerie, donc on lui propose, peu importe, dans la ville de Toulouse. Ça peut être aussi bien au centre-ville qu'à la périphérie, peu importe, du moment qu'il sort du quartier. Donc ça, c'est la première chose, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de gestion. On laisse les offices HLM s'en dépêtrer. Et comme par hasard, quand on détruit les immeubles, on dit aux offices HLM, trouvez les moyens de les virer de leurs immeubles. Ce qui est assez cocasse, c'est qu'ils voulaient tous un pavillon, du coup, parce que quitte à partir. Et là, c'était très compliqué pour les offices HLM, parce que les choses, un pavillon, ça coûte plus cher, parce qu'il y en avait pas, on n'avait pas reconstruit suffisamment, etc. Enfin, il y a eu des galères au niveau des offices HLM, et comme par hasard, c'est les salariés, bien sûr, qu'on a envoyés sur le terrain, qu'on a envoyés toquer chez tous les habitants, en disant, vous voulez à partir où? Et ça, c'est un vrai problème, parce qu'une fois encore, on a balancé des salariés sans proposition, on les a envoyés au feu et c'est eux qui se sont retrouvés avec toute l'agressivité des habitants en face d'eux. Et ça aussi, c'est inadmissible. Donc, quand je dis qu'il n'y a pas eu de gestion réelle de cette question-là, de où on allait mettre les habitants qui quittaient ces immeubles et des histoires, j'en ai des tonnes. Un petit vieux qui a vécu toute sa vie au fameux 9 bis, hein, dans cet immeuble-là. Un petit vieux qui a eu toute sa vie là. C'est un Espagnol. C'est quelqu'un qui était avec sa femme là. Un jour, on nous appelle et on nous dit, il faut que vous alliez, c'est une assistante sociale, c'était au moment de la canicule. Il faut que vous alliez voir parce qu'il faut nettoyer l'appartement dans lequel il est rentré. En fait, on a pris ce petit vieux qui avait tous ces souvenirs-là, soi-disant il y avait de l'accompagnement social, hein, notamment par le conseil général. Et on se retrouve dans une situation où j'arrive et je me retrouve en face de ce petit vieux d'origine espagnole qui a fait 36, hein, en Espagne. Les déménageurs avaient pris des cartons chez lui, ça pour déménager son appartement de l'époque. Ça, ils l'avaient fait. Hein. Ils avaient tout posé. Point final. Il n'avait même pas de drap pour mettre sur son lit. Tout était dans les cartons. Et ça a duré, ça, 3 semaines, avant qu'on s'en aperçoive, avant qu'une assistante sociale s'aperçoive du problème. C'est-à-dire que l'accompagnement des gens qui sont transférés d'un immeuble à l'autre, puisque lui avait été mis au grand indi, d'abord, il se retrouve avec une pièce de moins. Il n'a plus ses repères par rapport à toute la vie qu'il a eu avec sa femme, et on le lâche comme ça au milieu de carton, sans se soucier si il est à même à 88 ans ou 90 ans de pouvoir sortir tout. Eh bien, mes collègues qui sont allés nettoyer, pour vous dire, ils y ont passé 3 jours, elles étaient 2. Donc, il n'y a pas eu de gestion réelle de la façon dont les habitants, on les a relogés.